RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, apparaît en Perse une doctrine qui est peut-être la première religion monothéiste, le zoroastrisme.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Son prophète se nomme Zarathoustra.
Dans la curiosité, on se passionne pour les secrets de la plus vieille religion occidentale, le zoroastrisme, avec Catherine Goliot, qui est rédactrice en chef du Point Référence, qui consacre son numéro notamment à l'histoire de cette religion. Il y a beaucoup d'autres histoires, mais on a voulu en choisir une.
Au texte sacré.
Parce que, oui, au texte sacré, on a voulu en choisir une parce que, bah déjà, le nom nous intriguait. On se disait, voilà, et puis c'est toujours sympa de connaître ce qui s'est passé avant les religions qui nous animent aujourd'hui. D'ailleurs, ça veut dire quoi, zoroastrisme? Est-ce qu'il y a une étymologie, Catherine Goliot?
Alors, cette étymologie, en fait, les gens ne sont pas vraiment d'accord sur son sens. Au départ, il y a un mot qui est zoroastre pour les Grecs, parce que c'est les premiers, les Grecs, qui en ont parlé. Et en lisant les textes, on a un mot plus ancien qui serait Zarathoustra. Ce Zarathoustra, c'est une sorte d'interlocuteur d'un certain nombre d'hymnes, de poèmes qui s'adressent aux dieux. Alors ensuite,
c'est-à-dire c'est lui qui a l'interprète entre des dieux et le peuple, c'est ça?
Non, c'est pas ça. En fait, ce serait lui qui aurait écrit un certain nombre de textes très 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 anciens,
d'accord,
qu'on appelle les Gathas, et il s'adresse directement à Dieu, notamment à un dieu qui s'appelle Ahura Mazda, et il y a un très très beau texte dans lequel il lui dit: dis-moi, c'est quoi les étoiles? Dis-moi, c'est quoi le monde? Et il lui pose des questions comme ça. Et ça, c'est un texte qui pourrait dater, grosso modo, du deuxième millénaire. Mais la religion...
Avant notre ère. Hein,
avant notre ère, bien sûr.
C'est sûr.
Mais
sinon, c'est aujourd'hui.
Cette religion...
Ça arrive de poser des questions idiotes.
Mais on a le droit de tous poser
cette
des questions.
Religion, le jour du Noël.
Cette religion a évolué. Et cette religion, surtout, elle nous a été racontée à nous par des Grecs. Et les Grecs ont dit... Zoroastre, c'est un prophète. Et ensuite, ce statut de prophète a été repris, notamment en Perse, quand cette religion est devenue la religion officielle.
D'accord.
Et que le fameux Zoroastre a été considéré comme le réformateur de la religion zoroastrique. Mais en fait, aujourd'hui, les historiens, et c'est ça l'intérêt, si vous voulez, du hors-série, c'est que ce sont des historiens qui vont raconter vraiment ce que l'on sait aujourd'hui de ces textes. Et eux disent, c'est pas du tout sûr que ce soit un prophète, parce qu'en fait, ces textes, et qui sont regroupés dans un document qu'on appelle l'Avesta, ce sont pas des textes prophétiques. Ils n'annoncent pas quelque chose. Ils n'annoncent pas, par exemple, l'avènement d'un dieu, un sauveur, etc. Parce que, en fait, le sauveur, peut-être même que ce serait le fils de Zoroastre, mais on n'en est pas sûr.
Donc, le zoroastrisme, c'est une religion polythéiste, c'est-à-dire ils vénéraient plusieurs dieux, de ce que les historiens qui ont participé
absolument.
À
ce n'est pas du tout une religion monothéiste.
D'accord.
En fait, cette idée de religion monothéiste, elle est née très tardivement et c'est une lecture des monothéistes eux-mêmes qui ont assimilé Zarathoustra à Abraham. Mais en réalité, il y a beaucoup de dieux. Il y a Ahura Mazda, il y a le fameux Mitra, que l'on va retrouver bien plus tard à Rome. Alors, les dieux évoluent. Hein. Quand ils voyagent, en général, ils changent de statut, ils changent de nationalité.
Mais chaque dieu avait un rôle particulier, c'est ça ?
Absolument, avait un dieu. Et il y a donc un très beau texte qui évoque Mitra. Mitra, ce serait un dieu solaire qui voyagerait avec le soleil sur son char. C'est le dieu du serment. C'est le dieu aussi des pâturages. C'est le dieu, en fait, qui, pour une population de cavaliers, d'éleveurs et de culture orale, est le dieu qui garantit la stabilité de la parole, le serment. C'est un dieu très, très important.
Il y a aussi un dieu de l'amour ou un dieu de la guerre, ou comme chez les Grecs et les Romains.
Alors, c'est aussi un dieu de la guerre, parce que c'est un dieu qui n'est pas content du tout quand on rompt son serment, Mitra. Mais vous avez, par exemple, une déesse exceptionnelle qui s'appelle Anaïta, qui est la déesse de l'eau, la déesse de la voie lactée, la déesse de la sensualité, peut-être la déesse de l'amour, mais qui a été assimilée par les Grecs à Athéna, par exemple, qui n'est pas du tout la déesse de l'amour chez les Grecs. Il y a une déesse qui est très étonnante, qui s'appelle Aoma, et en fait c'est un liquide sacré. Et ce liquide, il est obtenu à partir d'une plante que les prêtres broient pendant un certain rituel. Et c'est la nourriture, pour simplifier, hein, c'est la nourriture des dieux. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus divin que l'ambroisie, par exemple, que boivent ou dont se nourrissent les dieux de l'Olympe dans la mythologie grecque.
En tout cas, on voit qu'il y a déjà beaucoup de poésie, de valeur et d'esprit dans cette première, l'une des plus vieilles religions au monde. On va découvrir dans un instant le rituel des morts des Zoroastriens, on dit ça ?
Zoroastriens ou des Mazdéens. Ouais.
Très bien, c'est très impressionnant, vous allez voir. Restez avec nous les curieux sur RTL.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis à Orange County, en Californie, pour rencontrer le président du temple local, Arman Aryan.
Bienvenue au centre zoroastrien de Californie.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Aujourd'hui, il ne reste que quelques foyers de croyances zoroastriennes dans le monde, notamment en Inde et en Iran. Et, étonnamment, en Californie.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Extrait d'un documentaire incarné par Morgan Freeman et évidemment la musique de Strauss. Ainsi parlait Zarathoustra, parce qu'on découvre cette religion, le zoroastrisme, considéré comme la plus vieille religion occidentale, 2 millénaires avant notre ère. Elle est née au sud de l'Asie centrale ou à l'est de l'Iran. Elle vénère plusieurs dieux. Il y en a un qui domine d'une certaine façon, qu'on nomme Ahura Mazda. Et Catherine Goliot, vous nous racontez l'histoire de cette religion. Vous êtes, je le rappelle, la rédactrice en chef du Point Référence, qui raconte l'histoire des textes sacrés. C'est en partenariat avec RTL. Et donc, Zarathoustra, c'est vrai que la phonétique aurait pu nous y faire penser, c'est Zoroastre en fait, c'est la même chose.
Absolument, absolument. Zoroastre, c'est le nom grec de Zarathoustra. Et c'est vrai que pour nous occidentaux, le livre de Frédéric Nietzsche a eu une influence fondamentale, parce que d'abord c'est un livre absolument exceptionnel et très important pour la philosophie occidentale, mais surtout parce qu'on a découvert à ce moment-là ce qu'il présente comme un prophète. Et donc lui, il a repris l'idée que c'était
Nietzsche qui représente,
un prophète.
D'accord, ouais.
Non, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les Européens, et c'est un Français, Anquetil du Perron, qui a récupéré, de manière d'ailleurs assez rocambolesque, un certain nombre de manuscrits très très anciens de cette religion chez les Parsis en Inde. Et ensuite, il a essayé, un petit peu comme Champollion a essayé de le faire pour les hiéroglyphes, il a essayé de déchiffrer ces langues, parce que c'était très très compliqué, et en fait, il y avait dans le même groupe de textes, il y avait deux alphabets, avec plein de petits morceaux de texte partout. Donc d'abord, il s'est complètement trompé. Donc il a à la fois introduit les manuscrits, mais il a retardé de près d'un siècle la découverte réelle de ce qu'est le zoroastrisme, parce que il s'est beaucoup trompé. Mais il a aussi beaucoup publié. Beaucoup de savants se sont passionnés pour cette religion, parce que très vite ils se sont dit que c'était un monothéisme et que donc il y avait des relations directes peut-être avec le judaïsme, etc. Et Frédéric Nietzsche s'est enthousiasmé pour ce soi-disant prophète, en tout cas qu'il a présenté comme ça, qui était Zarathoustra. À l'époque, par exemple, on pensait d'abord qu'il avait vraiment vécu, et peut-être vers 1700 avant Jésus-Christ. Mais bon, ensuite, on a réétudié les textes, et on les a étudiés notamment à la lumière des textes indiens du Veda, ce qui a amené à réviser beaucoup de choses en ce qui concerne les origines de ce fameux texte de l'Avesta.
Mais alors, quel lien peut-on faire avec nos religions ? On parlait tout à l'heure des desserts, la bûche de Noël ou la galette des rois, associée depuis quelques siècles aux rois mages. Est-ce que dans la religion, dans le zoroastrisme, on trouve par exemple des mages qui auraient pu inspirer les rois mages
Absolument, on ne trouve pas de galettes, on ne trouve pas de frangipane, ça c'est sûr, mais on trouve des mages. Pourquoi ?
Oui.
Parce qu'en fait, c'est une religion, un petit peu comme la religion védique, qui est une religion où les prêtres ont une importance fondamentale. Et c'est eux qui vont se transmettre les écrits, qui ne sont pas en fait écrits, mais enfin les textes en tout cas, ils vont se les transmettre oralement, puisque l'écriture se fera très très tardivement, vers le 7e siècle de notre ère. Donc vous voyez, entre le 2 millénaire avant Jésus-Christ et le 7e siècle de notre ère, il y a quand même beaucoup de temps. Et ils vont avoir un rôle fondamental. Et quand on lit, et c'est moins dans les évangiles que dans ce qu'on appelle les textes apocryphes, les évangiles apocryphes qui sont pas reconnus par l'Église, mais qui sont les évangiles qui racontent en fait la naissance de Jésus, la crèche, la fuite en Égypte, etc. On parle de ces mages, que l'on présente comme des mages, et on dit qu'ils viennent du Sistan, qui est une région du sud-est de l'Iran, où effectivement, il y avait des communautés zoroastriennes très très importantes, notamment quand les Arabes ont envahi la Perse. Donc c'était vraiment très très ancien. Et donc ces mages, en fait, ce sont des prêtres zoroastriens.
Et on va s'intéresser maintenant, puisqu'on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, on va vraiment rentrer dans le détail du rituel des morts dans cette religion zoroastrienne.
Continuer de découvrir les valeurs
communes.
Mais oui, communes avec les différentes religions qu'on connaît aujourd'hui, le zoroastrisme. Ah, je me suis planté juste une fois. Ça, ça va en mal. Une heure d'émission. A tout de suite, des curieux sur RTL.
RTL.
J'ai appris, à ma grande surprise, avec les juifs, les chrétiens et les musulmans, en fait, ils sont tous d'accord sur un truc. Non, mais vous n'êtes pas complètement d'accord.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors, ils sont tous d'accord sur l'Ancien Testament, plutôt sur les 5 premiers chapitres de l'Ancien Testament.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors, j'essaie de vous trouver des passages sympas qui pourraient vous donner envie de le lire. C'est perdu dans un paquet d'autres conneries, du coup, c'est pas évident.
Bon bah Jérémy Ferrari, on a fait un peu le tri avec notre invitée Catherine Goyot, qui est passionnante rédactrice en chef du Point Référence, qui consacre son numéro aux histoires des textes sacrés. Et nous, on a décidé justement de parler de la mère des religions occidentales, le zoroastrisme. On va parler de... C'est donc une religion qui est née il y a à peu près 2000 ans. Enfin, avant Jésus-Christ, ou avant notre ère, c'est selon nos croyances. On voulait parler des pratiques funéraires de ces croyants, qui sont assez incroyables pour nous aujourd'hui. Il faut nous raconter ça.
Le zoroastrisme, c'est une religion qui vise à rénover le monde, à expulser le mal. Et la notion de pureté est fondamentale. Et donc, c'est une religion qui ne veut souiller ni l'air, ni la terre, ni le feu, ni l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt ? Ils ont trouvé une solution. Ils ont construit d'immenses tours. Dans ces tours, il y avait une petite porte seulement. Donc les familles ne voyaient pas ce qui se passait. On déposait le cadavre, les oiseaux s'en occupaient, le soleil faisait le reste, et ensuite les derniers os qui restaient, on les jetait au fond du puits.
Et séchés, les corps.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'était les oiseaux qui se nourrissaient, donc il y avait un rapport direct entre le prédateur et le cadavre, et le soleil brûlait. Mais rien n'était souillé.
Aujourd'hui, il y a encore des zoroastriens en Inde notamment, et en tout dans le monde, il y en a 200 000. Est-ce qu'ils pratiquent encore ce genre de rituels funéraires ?
Alors, à Bombay, en Inde, il y a encore 5 tours du silence, ce qu'on appelle les tours du silence, c'est-à-dire ces grandes tours dans lesquelles on mettait les cadavres. Le problème de Bombay, c'est qu'il n'y a quasiment plus de vautours, donc ils ont des problèmes pour faire disparaître les corps, et il paraît, mais je ne l'ai pas vérifié, qu'ils utilisent aussi des panneaux solaires pour pouvoir faire disparaître plus vite les corps.
Incroyable.
Voilà.
On cherche donc les liens entre le zoroastrisme et les religions monothéistes. Est-ce qu'on peut imaginer que Jésus ait connu cette religion, puisqu'elle existe encore aujourd'hui, donc elle devait exister à l'époque où Jésus apparaît ?
Alors, Jésus vit en Judée. Les Perses ont occupé la Judée pendant 3 siècles. Et les Perses... connaissait, donc était imbibé de zoroastrisme, bien évidemment. Donc, il y a des historiens, par exemple, comme Franz Grenet, qui est professeur au Collège de France, aujourd'hui, qui dit que, lui, il est convaincu que Jésus a vécu dans un milieu où il y avait des influences zoroastriennes fortes. En fait, qu'est-ce que le zoroastrisme aurait pu apporter à la Bible ? D'abord, les notions de bien et de mal, qui sont très puissantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé du zoroastrisme comme une religion dualiste. Parce qu'il y a vraiment une opposition entre le bon et le mauvais. C'est le zoroastrisme peut-être qui a créé la notion de jugement dernier. C'est-à-dire qu'on meurt, pendant 3 jours, l'âme est seule avec un dieu, qui est le dieu de prière, et ensuite elle rencontre son double, la Daena, qui l'emmène vers le ciel. Et à ce moment-là, les bons sont jugés. Et eux, ils partent avec tout le confort, et les mauvais sont jugés, et pour eux, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça a été repris par tous les monothéismes, par exemple. Et la notion d'eschatologie, c'est ce qu'on appelle la notion de jugement dernier, de fin du monde, mais un peu cataclysmique, a eu beaucoup d'importance dans l'islam. Et on pense que le chiisme, qui s'est développé en Perse, est profondément influencé par le zoroastrisme.
Merci infiniment, c'est passionnant. On aurait pu encore en parler des heures, mais ça tombe bien, il y a ce hors-série, ce point référence consacré à l'histoire des textes sacrés. Merci beaucoup Catherine Goliot. C'est la fin de notre curiosité.
Mais oui, merci Catherine Goliot. Et quand même, on a réussi à parler zoroastrisme avec un pull de Noël qui représente un renne et son pompon et un serre-tête de Noël de Sidonie Bonnec.
Le sérieux n'est pas dans les apparences.
Ne ratez pas ça sur rtl.fr.